compétition localisée. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Et le troisième projet que je suis, c'est un projet purement artistique qui est en Lot-et-Garonne, et purement artistique et culturel. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'ils ambitionnent des transitions localisées, écologiques, mais pas en passant par le biais classique, si je puis dire comme ça, qui est plus sur, qui va être sur l'énergétique, les modes de vie, des choses comme ça, les modes de se déplacer. Mais eux, ils ambitionnent plus par la culture et amener de l'écologie par la culture. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Donc voilà, il y a ces trois projets-là. J'ai essayé de faire très vite pour tenir les temps, mais on pourra en discuter beaucoup plus longuement si vous le souhaitez.
Oui. Ok. Merci. Il restait des questions, notamment de Isabelle Lajeunesse. On vous laissera éventuellement le temps de pause pour en discuter si vous voulez. Et merci pour les questions. Et on va passer donc à Mathilde Giraud de l'UMR Triangle, qui va nous parler de la transition dans un programme de recherche ministériel. Donc, on voit bien votre écran, Mathilde. Donc, je reprends à 17 minutes, je vous fais un petit son et à 20 minutes, je vous coupe.
Merci. Donc, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter un de mes matériaux de thèse et qui est porté sur les professionnalités de l'urbain en contexte de crise écologique et surtout les difficultés rencontrées à politiser les questions relatives à la production de savoir dans le champ de l'urbain. L'intervention que je vous propose aujourd'hui, elle va un peu questionner justement comment la notion de transition peut être construite finalement dans une norme par le cas d'étude d'un programme de recherche-action ministérielle. Donc je me suis intéressée vraiment à la compréhension de cette notion de transition, comment elle a été comprise par ses membres, comment est-ce qu'elle a été inclue ou pensée par rapport à des politiques publiques d'État ou locales. Voilà. Donc vraiment essayer de cerner un petit peu à partir de ce cas d'étude, comment la notion de transition peut être un levier ou non dans une recherche-action. Alors le contexte, c'est un programme de recherche qui a démarré en 2014, la réflexion a démarré en 2014, une recherche donc portée par le ministère de la Transition sociale et écologique qui s'intitulait Paysage, territoire, transition et qui faisait suite à deux programmes de recherche précédents portant sur le développement durable. C'était des programmes de transition. C'était des programmes de recherche autour du développement durable et du paysage qui étaient assez en termes de production, de valorisation, d'organisation scientifique. Et là, on avait un nouveau programme qui venait un petit peu rompre avec les deux précédents, déjà par son intitulé, puisqu'on ne retrouvait plus le développement durable, puisqu'on y ajoutait la notion de transition et de territoire. Ce programme visait à s'inscrire un petit peu dans une perspective nouvelle, en introduisant du coup ces deux nouvelles notions et puis comme objectif de croiser ces notions de paysage, de territoire et de transition. Il y avait tout un arrière-plan de questionnement et de réflexion autour de la complexité sociale et de l'incertitude des savoirs, une complexité qui était vraiment tendue dans le sens donné par Edgar Morin, donc de croisement, d'enjeux, voilà, qui viendraient se superposer, se confronter, et donc d'une multiplication un petit peu des phénomènes sociaux qui sera en cours. Sur le format, cette recherche aussi se voulait un petit peu novatrice, puisqu'il y avait l'ambition de prendre la forme d'une recherche-action, et cette ambition s'est beaucoup autour de la notion de territoire, qui était comprise un petit peu comme un euphémisme pour venir catégoriser l'action citoyenne et l'action publique locale. Elle s'est aussi concrétisée par la création de ce qu'on a appelé une équipe projet. L'équipe projet, elle réunissait des chercheurs, des praticiens, par exemple de CAUE, de parcs naturels régionaux, d'agences d'urbanisme, des agents ministériels et des agents des services déconcentrés de l'État. Donc il y avait ce groupe assez hétéroclite qui était en charge de construire pendant un an, donc de 2014 à 2015, la démarche de la recherche et de poser un petit peu les fondements réflexifs de cette recherche. Les fondements réflexifs, c'était vraiment l'idée de questionner, on va dire, les pratiques et les modes d'action publique locale suite aux mutations, aux incertitudes et aux complexités de différentes natures. Donc là, on retrouve la perspective un petit peu puisée dans la pensée d'Edgar Morin. Donc il y avait la démarche de recherche donc, par des fondements réflexifs et aussi par l'identification de problématiques scientifiques qui émergeraient de ces doutes pratiques. Donc voilà. Donc l'idée de dire comment ces doutes liés aux mutations, aux incertitudes, aux complexités qui nous seraient contemporaines se traduisent en termes de problématiques scientifiques. Non, ça va pas marcher. Voilà. Alors, moi, du coup, j'ai été en observation participante pendant toute pendant toute la phase de préfiguration de la recherche dans cette équipe projet, au même titre que les chercheurs. Alors, pour les praticiens, c'était vraiment au même titre. Pour les autres enseignants-chercheurs, il y avait des variations. D'autres me considéraient un petit peu comme la doctorante qui n'avait pas forcément de raison d'être là. Voilà. J'ai réalisé une analyse des discours qui ont été produits durant cette recherche-action. Alors, les discours qui ont été produits directement comme matériaux de recherche, par exemple des notes liminaires, des journées d'études, ainsi que des matériaux qui ont résulté finalement de la dynamique de recherche, et notamment de la dynamique produite par l'équipe projet. Il y avait par exemple une plateforme collaborative qui avait été mise en place et qui était un moyen d'échanger des articles, des appels à communication, des annonces d'événements, des photos aussi de projets sur lesquels on travaille. Donc pour moi, c'était aussi une matière qui était très intéressante. Donc je me suis intéressée finalement à des discours qui pouvaient être des discours écrits, des discours oraux, des discours photographiques, des discours individuels ou collectifs, formalisés ou informel, donc c'était vraiment dans une diversité de discours. Et concrètement, dans ces discours, je me suis intéressée aux termes employés et à leur compréhension, particulièrement les termes de paysage, territoire et transition, mais aussi d'autres. Je me suis intéressée aux circuits argumentatifs, donc comment les idées se développent et les liens de cause à effet qui sont explicités. Je me suis intéressée aussi aux références qui étaient données, au croisement des enjeux et aux notions qui étaient parfois un petit peu implicites dans les discours. Donc voilà, et à partir de cette analyse des discours, j'ai construit finalement des polarités sémantiques. Mais ici, je vais vous présenter vraiment les résultats d'analyse autour de la notion de transition. Alors, la notion de transition, ce qui apparaît, c'est que contrairement aux notions de paysage et de territoire, lui a été conférée une portée subversive, voire transformatrice, assez forte. Elle a vraiment été inscrite dans une perspective politique. Il y avait vraiment des attentes très fortes en matière politique qui étaient attribuées à cette notion. Alors la première compréhension qui a été donnée de la notion de transition, elle a été donnée dans un document cadre de paysage de cette recherche, document cadre qui a été produit en fait par des chercheurs et des agents du ministère qui travaillaient dans le cadre de la recherche paysage et développement durable 2, donc la recherche précédente, et qui avaient produit ce document cadre pour préparer la recherche paysage territoire transition. Et cette compréhension de la transition était assez minimale. Elle renvoyait plutôt à des mécanismes de changement, la transition qui était vue, voilà, qui était présentée de manière très descriptive, comme une série de mécanismes. Et cette compréhension-là, elle a très rapidement suscité des questionnements au sein de l'équipe projet, notamment sur l'inscription temporelle et la portée politique de cette notion. Est-ce que finalement, la transition a bien désigné un processus, le passage d'un état A à un état B, ou une vision commune partagée, c'est-à-dire vers quel état B on voudrait tendre. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une perspective plutôt que l'autre, qu'une autre? Est-ce que la transition, finalement, elle est d'ores et déjà amorcée, ou du moins imminente? Ou est-ce que c'est une construction du politique à venir, mais vers laquelle il existerait des briques spontanées et situées? Alors, en fait, là, je fais le lien avec les deux notions de paysage et de territoire qui étaient et leur compréhension qui a été faite. Selon que la notion de transition a été associée à la notion de paysage ou de territoire, elle a revêtu un sens différent dans ses questionnements initiaux. Donc, je reprends. Il y avait, par exemple, un premier questionnement qui était de dire est-ce que finalement la transition, elle serait d'ores et déjà amorcée ou du moins imminente par la démarche paysagère qui serait mise en place par les praticiens? Ou est-ce que la transition serait une construction politique à venir, mais pour laquelle, en fait, il existerait des briques spontanées, des initiatives citoyennes qui se traduiraient dans les territoires? Donc, on voit que, en fait, finalement, cette notion de transition, elle est vraiment polysémique, et selon qu'elle était employée en lien avec le paysage ou avec les territoires, c'était une compréhension très différente qui relevait. Et s'ajoutait en plus la question des temporalités, des rapports avec, on va dire, l'action et la justification politique de l'action. Finalement, est-ce que la transition était-elle une contrainte pour les politiques publiques, ou était-elle intentionnelle pour tendre vers un nouvel horizon? Donc, vous voyez très bien qu'il y avait, voilà, il y avait toute une série de questions qui émergeaient. Et on a résulté deux compréhensions opposées de la notion de transition. La première, c'est une compréhension plutôt opératoire de la transition qui passe par une qualification, par des processus, des instruments de la transition. Donc, il y a eu toute une série de discours pour définir finalement les instruments et les outils de l'action, les étapes et les critères d'évaluation de la progression de la transition. Donc, ça s'est par exemple traduit dans des références à des modèles d'action qui étaient facilement finalement transposables dans un cadre institutionnel. On avait par exemple la référence au modèle du réseau de la transition de Robert Hopkins, et puis une référence aussi qui a été aussi menée avec les réflexions sur la ville intelligente et tous les appareillages technologiques qui l'accompagnent. Ces modèles d'action étaient ensuite ventilés de manière thématique, c'est-à-dire que la transition en fait était qualifiée par des thèmes d'action. On parlait de transition énergétique, transition agricole, transition alimentaire, transition de l'habitat ou du logement. Et donc finalement, la transition était qualifiée à l'aune de thèmes de l'action publique. Et on voyait très bien que l'objectif du coup sous-jacent était de faire évoluer les politiques publiques existantes, et par là, ses leviers d'action et ses instruments. En ce sens, la notion de transition a été employée ici de manière assez proche de la trajectoire argumentative qu'a pu connaître la notion de développement durable. Cette compréhension de la transition a été plutôt portée par des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui s'est justifiée par les supposés besoins des praticiens et des agents de l'État impliqués qui seraient en quête d'opérationnalité et qui donc ne pourraient s'engager dans une recherche-action qui serait chronophage sans garantir de résultats applicables. Donc c'était un discours de chercheurs et enseignants-chercheurs justifié par des attentes non explicitement faites de praticiens et d'agents de l'État. Comme si finalement les praticiens et les agents de l'État ne pouvaient pas être intéressés aussi par les réflexions, la perspective critique, la prise de recul, et qu'ils étaient forcément dans une recherche opérationnelle immédiate, avec voilà, une traduction concrète immédiate. Seconde compréhension de la notion de recherche de transition, c'est une perspective expérimentale qui est soulevée. Alors cette seconde approche, elle repose sur le principe suivant. Il y aurait une coalescence de crises, crise climatique, environnementale, sociale, urbaine, économique, financière. Et cette coalescence, elle créerait une incertitude dans la connaissance des phénomènes, ce qui viendrait participer d'une fragilisation de nos capacités à agir. Il faudrait désormais agir en contexte de controverse, voire d'ignorance, en doutant de ces prises sur les phénomènes, ainsi que des conséquences parfois inattendues de nos actions. Il s'est alors s'agit d'interroger finalement l'objectif qui serait partagé pour la transition. Quel serait l'horizon vers lequel nous chercherions à tendre? Considérant l'incertain écologique et la complexité sociale, cette perspective elle a posé la nécessité de bricoler l'action par improvisation ou expérimentation. Dès lors, la recherche de transition elle a demandé de rompre avec des habitudes de faire, comme dans les politiques territoriales, dans les démarches et méthodologies d'études, dans les modalités de production et d'aménagement du territoire. Et à cet égard, il y a eu un certain attrait pour toute forme d'initiative qui se déploierait dans les territoires, que ce soit d'initiatives issues d'associations d'habitants, de collectivités ou de praticiens. C'était pensé comme des exemples d'autres manières de faire. C'était aussi vu comme une forme de légitimité qui viendrait remplacer celle de l'expertise ou de la maîtrise instrumentale qui serait fragilisée par les incertitudes et les complexités liées aux crises susmentionnées. Toutefois, tous ces questionnements sur l'horizon, l'objectif de la transition, ont essuyé de nombreuses finalement techniques d'évitement de la part de l'ensemble des praticiens, que ce soit de l'ensemble des participants, que ce soit des praticiens, des agents, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, sans distinction de discipline ou de domaine d'action, il y a une forme de consensus sur l'évitement du sujet. Alors, les techniques d'évitement qui ont été utilisées, c'était par exemple le jeu de mots qui vient détourner l'attention, c'était les questions rhétoriques qui en fait orientent vers un avis en rendant dérisoire toute position opposée. La question rhétorique, en fait, elle vient suggérer implicitement un avis et créer une forme de connivence avec les interlocuteurs en sous-entendant que en fait, ces derniers vont partager le même avis que vous. Puisqu'en fait, c'est une question qui n'attend pas de réponse. Donc on suppose que l'interlocuteur partage le même avis que vous. Or, on a une norme sociale contemporaine qui s'inscrit plutôt dans la valorisation du consensus plutôt que celui de la dispute. Donc l'expression finalement d'un désaccord à cette question rhétorique viendrait signer une forme d'inaptitude sociale au vivre ensemble et entraînerait une forme de jugement moral. Donc finalement, c'est très mal vu dans ce cadre, dans ce type de cadre de dire par exemple, je prends l'exemple là, qui est contre le développement économique de Lyon, dire moi je suis contre, et poser une perspective critique sur la notion de développement, ça aurait été très mal vu dans ce type de contexte-là. Il y avait aussi une technique d'évitement par la question de la responsabilité, c'est-à-dire renvoyer finalement la responsabilité d'acteurs qui n'étaient pas présents dans le tour de table. Ça a été mené par exemple sur la question des politiques agricoles et des pratiques de culture agricole. Et là, évidemment, discuter d'un sujet dont les responsables ne sont pas autour de la table, c'est facile d'éviter le sujet du coup. Il y avait aussi une dernière technique d'évitement, c'était le recours aux imaginaires de la recherche qui a été employé du coup surtout par les praticiens et les agents. Il faut savoir que les chercheurs apparaissaient dans ce tour de table comme une forme de figure stable, avec un rôle déterminé dans la production de connaissances qui constitue finalement un point de repère pour les praticiens quand finalement leur cadre d'action par la coalescence des crises sont particulièrement en phase de mutation. Je suis en cours. Et donc on a cet imaginaire qui drape le chercheur avant même son arrivée et qui vient susciter quelques attentes d'un point de vue des formes de savoir, et notamment de savoir qui serait du coup rassurant, légitimé par des protocoles de recherche et qui aurait aussi une portée à la généralité. Et cette portée à la généralité, finalement, elle permet de se dédouaner d'un discours de son cas pratique, du terrain auquel, soit en tant que praticien, on est confronté. Donc on voit bien qu'il y a deux questions qui ont été très largement évitées. Il y a la portée des expérimentations territoriales à faire commun, ces fameuses initiatives des territoires qui sont assez attrayantes. Comment est-ce qu'elles font commun, finalement, plutôt que masse par la généralisation? Et il y avait une autre question, c'était celle du changement de paradigme que suppose la notion de transition et finalement de la critique du système actuel par ses effets notamment environnementaux et climatiques qui étaient assez présents dans le tour de table de discussion. Alors pour conclure, on voit bien que la notion de transition, elle a permis dans le cadre de cette recherche d'action d'exprimer les doutes, particulièrement les doutes des praticiens quant à leur pratique de métier et des finalités de leur pratique par leur inscription dans des politiques publiques. La transition, elle a été fondamentalement permis une posture critique, une posture subversive par rapport à une organisation sociopolitique et socio-économique actuelle. Toutefois, par son caractère un petit peu flou, en fait pas flou mais relatif, la notion de transition elle a permis un évitement de positionnement politique dans le cadre un petit peu de cette scène hybride de la recherche-action. Elle s'est révélée davantage comme un support dans les débats au questionnement qu'un véritable positionnement politique. Si elle a assuré ici une compréhension partagée des enjeux environnementaux, paysagers et démocratiques actuels, elle n'a pas obligé à s'engager dans la construction d'une vision commune vers laquelle finalement transiter. Malgré son caractère a priori très politique, renforcé en plus par son ajout dans l'intitulé du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, la transition reste une notion plutôt relative quant à sa portée transformatrice. C'est-à-dire qu'elle c'est une notion critique sur qui peut être employée de manière critique sur le mode de fonctionnement socio-économique actuel, mais qui finalement est relative quant à sa portée transformatrice. Qu'est-ce que j'entends par relative? C'est-à-dire qu'en fait, elle va nécessiter un effort d'explicitation. On transitionne finalement pour aller où? Donc vers quel horizon? Vers quoi? Vers quelle nouvelle étape ou processus? Bon, merci.
Parfait. Pile au moment où mon téléphone me disait que ça faisait 20 minutes. Magnifique.
J'avais le chronomètre à côté.
Superbe. Merci. Du coup, eh ben, je vous invite, si vous avez des questions, à vous manifester avec la petite main levée de Teams. Corentin, vas-y, je t'en prie.
Oui, pardon, il y a justement des travaux ce matin, donc je ne suis pas sûr que vous m'entendiez très bien. Je vais mettre mon micro casque pour être plus clair. Bon, vous m'entendez?
Très bien.
Ouais. Bon, merci Mathilde pour ta présentation. Je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai toujours je pense que c'est un peu c'est la discussion qu'on va avoir tout au long de la journée. J'ai toujours un problème sur la question du changement de paradigme que suppose la transition dont tu as parlé, où en fait on voit bien que les programmes de recherche qui dit de recherche action mis en place par l'État ou par des collectivités locales en fait s'emparent de la notion de transition. Romain en a parlé aussi tout à l'heure et ne suppose rarement quand même un changement de paradigme, un changement de société. Tu as parlé de ce changement. Et je voulais te demander comment est-ce que ça a été mobilisé par les acteurs du projet dans lequel tu es, parce que tu as quand même conclu sur ce problème qui revient assez régulièrement encore aujourd'hui, sur la question de l'objectivité du chercheur et de la neutralité de l'agent. Mais tu conclus quand même ta discussion de ce projet en parlant de cette question de changement de paradigme. Donc, comment est-ce que finalement ça a été apporté par les acteurs qui participaient à ce projet-là?
Alors, en fait, la notion de changement de paradigme, elle était présente dès le début, c'est-à-dire qu'elle était présente dès la note cadre donc, qui avait été élaborée par le Conseil scientifique de la recherche, paysage et développement durable 2, donc de la recherche précédente. Et cette note cadre, lors des premières réunions de l'équipe projet, c'était un petit peu ce sur quoi on a commencé à discuter. Puisque voilà, c'était un texte qui était écrit, qui donnait un petit peu, qui était les cadres. Et cette idée du changement de paradigme, elle a été présente tout le long des échanges. Alors peut-être pas forcément employée sous le terme de paradigme, mais il y avait cette idée d'un renouvellement des modes d'action, des modes de faire, du champ, de l'aménagement, du développement, de l'urbanisme, de l'économie territoriale. Toutefois, la difficulté a été. Il y avait ce constat-là commun, mais la difficulté a été de dire, ok, mais changement de paradigme, vers quoi? Et là, c'est là où on a eu vraiment une incapacité à définir un horizon partagé. Et finalement, cet horizon, il a été défini par la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé à la démarche de recherche la définition de cet horizon. C'est-à-dire que je m'explique, la recherche qui a été menée à la suite de cette phase de préfiguration, ça a été le lancement d'un appel à un appel à idées, enfin c'est pas ouais, une sorte d'appel à projet par labellisation nationale et de projets dits territoriaux, avec tout ce, le paradoxe qu'il peut y avoir dans cette polysémie du terme territorial, où en fait ça définit à la fois des projets qui ont été portés par des habitants, des associations, d'autres des projets qui étaient portés par des collectivités locales, type PNR. Et donc, c'était labelliser des projets qui menaient une réflexion, particulièrement autour des notions de paysage et de transition. Là, du coup, la notion de territoire était un petit peu écartée, puisque c'était les projets étaient finalement... Enfin, les territoires étaient pensés finalement comme acteurs, comme un synonyme d'acteurs. Et donc, c'était une labellisation de ces projets. Il y a un certain nombre de projets qui ont été définis. Et finalement, on a, par la démarche de recherche, laissé les projets définir ce que seraient les horizons, sauf que en fait, les projets sont, qui ont été labellisés sont de nature assez différente, et on retrouve dans les 6 projets qui ont été labellisés, si je ne dis pas de bêtises, finalement une diversité de perspectives politiques. On avait par exemple un projet qui était sur la reconnaissance des nuits. Du label nuit étoilée, donc le fait qu'il d'éteindre les éclairages nocturnes, voilà, donc il y a une dimension paysagère, il y a une dimension biologique pour les animaux, il y a une dimension énergétique, il y avait ce type de projet-là. Il y avait un projet qui était beaucoup plus sur la question de la démocratie participative, un autre sur qui était beaucoup plus sur la question de l'économie du bois. Donc on avait des thèmes très différents, des approches très différentes, puisque certains projets étaient menés par des associations et des habitants, d'autres étaient vraiment menés uniquement par des collectivités locales. Ou... Voilà, donc finalement, on retrouve la diversité des points de vue de l'équipe projet dans la sélection des... dans la sélection des projets ABC. Et finalement, on a jamais répondu à la question. De quel paradigme?
Ok, merci.
On savait, il y avait néanmoins une compréhension relativement partagée sur changement de paradigme, avec quel paradigme on voulait rompre. Relativement. Parce que la question démocratique n'était pas partagée par tous. La question de la démocratie participative, démocratie citoyenne, voilà, c'était pas forcément partagé par tous, mais sinon sur les questions sociaux, environnementaux, écologiques, économiques, c'était relativement partagé.
Ok, merci. Alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. La personne s'appelle Tabni apparemment.
Oui, bonjour. Toujours pour rebondir sur la question que posée par Corentin, dans le cadre de ce collectif chercheurs et praticiens, comment était abordée la question de la gouvernance de la transition dans ce projet? Vous avez parlé de justement, la démocratie participative, etc. Est-ce qu'elle est en arrière-fond vue comme... quelque chose qui est déjà en place, qui ne modifie pas fondamentalement sa révision par rapport à l'approche de transition dans le territoire, si possible, interaction citoyen et vision descendante de politique publique. Alors, comment elle, est-ce qu'elle ne se pose pas, d'après vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se pratiquer par rapport à la mise en œuvre du projet? Merci.
Alors, si je retrace un petit peu le parcours, cette question de la gouvernance partagée, alors, je n'emploierai pas forcément le terme de gouvernance partagée, mais de plutôt démocratie participative, a été abordée. Tout d'abord, elle a été abordée par des désaccords entre chercheurs assez forts sur est-ce qu'il fallait aussi à penser une transition démocratique. On avait des points de vue très différents et assez radicalement opposés. Certains, voilà, parlant de, justement de gouvernance partagée ou de concertation, mais qui n'étaient pas forcément dans une perspective de co-construction des politiques publiques, tandis que d'autres étaient dans une position beaucoup plus radicale, d'autres dispositifs démocratiques beaucoup plus impliquants et où finalement la participation habitante est beaucoup plus en amont des projets. Donc on avait ces deux positions-là assez opposées et finalement ce qui a amené à mettre en débat cette question, c'est autour des savoirs dans les métiers de l'aménagement et de l'architecture, de l'écologie qui étaient présents, parce qu'ils ont soulevé en fait eux qu'ils avaient des doutes concernant leur savoir. Des doutes qui étaient liés aux enjeux écologiques qui les amenaient finalement à se dire finalement est-ce que les pratiques de métier qu'on nous a enseignées, ce n'est pas celles qui ont produit la situation écologique actuelle. Est-ce que nos pratiques, nos savoirs de métier sont pas là, peuvent nous permettre de répondre techniquement aux enjeux écologiques contemporains. Et puis de dire, du coup, il y avait vraiment toute une remise en cause de ces savoirs d'un point de vue écologique et puis d'un point de vue social. On a aussi un héritage de remise en cause des savoirs d'expertise assez forts et de questionnement sur le sujet dans ces champs d'action. Donc c'est le doute finalement, c'est les postures réflexives des praticiens présents dans le tour de table qui ont amené à introduire cette question-là de manière plus pratique et plus opérationnel, et finalement à dépasser, on va dire, un petit peu le débat d'idéologie. J'ai rien contre les débats d'idéologie, mais c'est juste que ça, on avait des positions radicalement opposées, et on voyait très bien qu'on n'allait pas, qu'aucun des deux points de vue n'allait avancer. Et finalement, c'est ces positions critiques qui ont amené à ces réflexions, et ça s'est traduit par une labellisation de projets. Qui pour certains sont d'initiatives strictement habitantes. Et ça, ce n'était pas du tout évident au début du programme de recherche de faire reconnaître des savoirs habitants et une capacité d'organisation habitante sur les problématiques paysagères et environnementales. Et là, en plus, c'était sur la question, ce projet qui a été labellisé, qui était porté uniquement par les habitants, c'était la question de la subversion climatique. Et donc. Qui peut être très technique. Désolée, j'ai des réponses un peu longues.
Il n'y a pas de problème, je comprends. Mais du coup, merci. J'espère que ça a clarifié la question.